La musique de l'ascenseur, chapitre 37. En cette nouvelle année, la Gazette fit peau neuve. Une formule rénovée pour relancer les ventes vit le jour. Pendant plusieurs semaines, l'équipe dirigeante plancha sur une maquette plus attrayante. Le format subit une cure de rétrécissement. Il y avait plus de pages et la couleur relégua aux oubliettes le noir et blanc. Avec l'ajout de rubriques loisirs et culture, il fallut embaucher un nouveau chroniqueur. Les jeunes ne manquaient pas sur le marché. C'est un dénommé Thierry Gontard qui décrocha la timbale. Enfin, il n'eut pas droit au couvert en argent. Juste un job pour s'occuper de la rubrique des chiens écrasés. Les anciens s'étant octroyé le reste. Dans le journalisme, c'est à l'identique de beaucoup de corporations. Les nouveaux sont souvent confinés aux tâches subalternes. Depuis quelques semaines, la rivière avait pris ses quartiers dans les locaux du quotidien. La situation ravivait des souvenirs douloureux à Robert. Ce dernier se considérait comme un fossile depuis les disparitions de ses copains Jack et Joël. Au début, il pensait fréquemment à cette histoire dramatique dont il fut le témoin impuissant. Il n'avait rien vu venir, et les faits s'enchaînèrent implacablement. Lui aussi trouvait cette affaire bizarre. Le dénouement ne l'avait pas convaincu. Il avait acquis la conviction que quelque chose clochait dans cet embrouillat mini. Puis, il avait rangé tout ça dans un coin de sa mémoire. Le temps faisait son œuvre. La chasse et ses occupations à la campagne l'accaparaient suffisamment pour qu'il ait l'esprit capté par d'autres pensées. Le petit genou s'intégra promptement, s'imprégnant de l'historique de la maison. Son 1,85 m, sa blondeur et ses yeux verts marquaient ses interlocuteurs. Il savait en jouer à merveille. La promiscuité obligatoire, engendrée par l'humilité ambiante, permettait des rencontres plus fréquentes. C'est par ce biais qu'il sympathisa avec Robert. Celui-ci l'apprécia dès la prise de contact. Il est des relations qui se nouent dès le premier mot. Il en fut ainsi pour le journaliste et le spécialiste de la pagination. Thierry marqua le point décisif lorsqu'il fit cadeau d'une casquette en velours noir à son collègue lors de son 44e anniversaire. Quand leurs activités réciproques le permettaient, les deux hommes se retrouvaient autour d'un café à refaire le monde. Malgré les différences d'âge et de loisirs, ils trouvaient toujours des tas de sujets à aborder. Ils possédaient une passion commune, leur amour immodéré des chevaux. Robert lui raconta les regrettables événements qui secouèrent la Gazette. Il aborda le sujet avec un pincement au cœur. Le temps n'arrivait pas à cicatriser cette terrible blessure. Perdre deux collègues aussi expéditivement et à cause de la même affaire le rendait triste. Il n'était pas plus persuadé de la culpabilité de Jack Numa que de celle de Joël Lambert. Après avoir relaté sa version des faits, il fit part de ses doutes concernant l'acteur de ses forfaits. L'histoire passionna Thierry. Il ressortit les articles de l'époque et s'imprégna de l'atmosphère si particulière des victimes de la rue Paquet. Il venait de contracter le même virus que ceux qui l'avaient précédé au journal. De retour chez lui, habité par toutes ses confidences, il se précipita vers sa petite femme et son fils Armel. Le garçonnet ressemblait à sa mère comme deux gouttes d'eau. La même toison rousse et des taches de rousseur partout. Il aimait ça et adorait les compter sur les parties les plus intimes de Judith. Le repas, composé principalement d'une pizza aux quatre fromages, fut rapidement absorbé. Une comptine pour endormir le fils chéri, et ils se retrouvèrent en tête à tête. Il relata sa journée et parla de Joël Lambert. Il la vit blêmir et s'interrogea sur ce qui lui arrivait. Elle s'allongea sur le canapé et peu à peu recouvra des couleurs. Elle lui concéda que tous ses meurtres l'avaient remué. Il réfléchit et trouva que son épouse faisait preuve d'une extrême sensibilité. Il se hasarda à la convaincre que tout cela concernait le passé. Elle acquiesça en rajoutant que c'était aussi du sien dont il était question. Par déformation professionnelle, il lui demanda de préciser le sens de sa dernière phrase. Elle avait tourné la page. Revenir sur sa liaison avec le premier suspect de la rue Paquet nécessita un gros effort de sa part. Elle tenta une diversion en prétextant qu'elle devait vérifier Carmel ne soit pas découvert. À voir la tête de son compagnon, elle se rendit compte qu'elle ne pourrait se défiler plus longtemps. Elle servit deux verres de jus d'orange et se réfugia dans un fauteuil. La gorge serrée, elle commença son récit. Elle partit dans un monologue où rien ne fut occulté. Son époux l'écouta avec un intérêt croissant. Il supporta difficilement d'entendre la mère de son enfant avouer qu'elle en aima un autre. Elle était consciente de la difficulté à raconter sa vie avant leur rencontre. Elle ne souhaitait pas tomber dans des révélations qui n'appartenaient qu'à l'intimité de deux êtres. Elle s'exprima parfois avec des sanglots dans la voix. Elle ne confia pas son désir d'avoir un bébé avec le défunt. C'était trop pour tous les deux. La discussion dura deux bonnes heures. Ils s'endormirent en se réfugiant dans les bras l'un de l'autre. Il comprit qu'elle voulait oublier ces épisodes trop cruels. Malgré ses preuves évidentes d'amour, il ne put dormir convenablement. Il entrait à son tour dans le dossier. Sa curiosité naturelle l'amenait à se poser plein de questions auxquelles elle ne pouvait répondre. Sa décision était prise. Il gratterait un peu dans cette intrigue.